Nous reprenons nos lectures suivies. Quelques versets au chapitre 2, les versets donc 15 à 17. N'aimez pas le monde. Ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure, lui, éternellement. Merci pour ta parole, qu'elle nous éclaire aujourd'hui. Amen. Alors, si quelqu'un devient chrétien, il entre dans une nouvelle relation avec Dieu. D'abord, ses péchés sont pardonnés. Il est ensuite en communion avec Dieu. Et il est passé, dit la Bible, des ténèbres à la lumière. Cependant, il vit toujours dans le monde. Il est toujours attiré et tenté par le monde et ses fascinations. Et la bataille dont nous avons parlé la semaine passée existe toujours pour le chrétien. Et le champ de bataille est le monde. Alors, qu'est-ce que le monde ? C'est un des mots de la Bible qui a plusieurs significations. Ce n'est pas toujours clair, c'est pas toujours facile d'être clair, d'avoir une vision claire des choses. Alors, ce mot peut avoir différentes significations. Ce mot peut parler simplement de la Terre, notre planète que nous habitons, tout ce que nous voyons autour de nous. On en a parlé dans le beau chant que les enfants ont chanté. Les arbres, les fleurs, les étoiles, etc. Nous savons bien que la création de Dieu est bonne du début jusqu'à la fin. Dieu l'a dit lui-même dans Genèse. Après avoir tout créé, chaque fois il dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, tout était bon. Et nous apprécions ce qu'il a créé. Et en tant que chrétiens, nous voulons le préserver la création de Dieu. Mais le monde dans la Bible peut aussi être tous ceux qui habitent sur cette planète, l'ensemble des humains. Nous connaissons bien les paroles de l'évangile de Jean, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ici, le monde, en Jean 3,16, comprend tous les humains, nous comprend tous, et par amour pour nous, Dieu donc nous a envoyé son Fils mourir sur la croix. Et dans ce verset de Jean 3,16, l'amour du monde est quelque chose donc de positif. Alors il est évident que quand l'apôtre Jean nous dit ce matin « N'aimez pas le monde », c'est qu'il pense à autre chose. Jean pense à quelque chose d'autre que ces deux possibilités quand il parle de l'amour du monde. Pour l'apôtre Jean, le monde dont il parle ici, c'est tout ce qui est contre Dieu. C'est tout ce qui s'oppose à Dieu. On pourrait dire c'est la vie de la société humaine organisée sous la puissance du mal. Alors, Martin Luther a dit, le monde, c'est comme un homme ivre qu'on va essayer de faire asseoir sur un cheval. Vous avez déjà peut-être essayé. On le met en selle d'un côté, péniblement. Et quand il est arrivé en haut, eh bien, il retombe de l'autre côté. Et on peut faire la même chose des deux côtés. C'est toujours pareil. On ne peut rien pour lui. Malgré tous les efforts employés, il veut être au diable. Ça, c'est une pensée de Martin Luther. Et donc, ça veut dire que le système entier du monde est sous la puissance de Satan. Et avec le monde vient toutes ses valeurs. Toutes les valeurs de ce système du monde avec ses exigences qui veulent séduire les chrétiens, les détourner de la vision du royaume de Dieu. Donc c'est ce monde-là qu'il ne faut pas aimer, dit l'apôtre Jean. Dans la première de Jean, nous trouvons que nous devons aimer Dieu, nous devons aimer notre prochain, nos frères et sœurs en Christ, et il ne faut pas aimer le monde. Et l'apôtre Jean nous dit « N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Alors, dans ce passage, nous voyons qu'aimer le monde veut dire être content avec, hein, avec le monde. Trouver son plaisir, hein, dans tout ce qui est opposé à Dieu, hein, ouvertement ou en cachette. Mais le chrétien n'appartient pas au monde, il ne fait pas partie du tout, de tout ce qui s'oppose à Dieu. Néanmoins, il faut bien vivre dans le monde. Il est appelé à aimer les gens qui habitent avec lui, mais il est appelé à rejeter les valeurs, les systèmes qui sont contre les voies de Dieu. Alors c'est un fait que Jean confirme quand il dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Soit on aime le monde, soit on aime Dieu. Il n'est pas possible d'être entre deux. Il n'est pas possible d'aimer deux choses qui sont à ce point opposées. Ça crée une tension inimaginable. Pourtant, il semble que bien souvent, que parfois et même bien souvent, il semble que nous sommes contents de vivre avec cette tension. Si Jean a pu dire « n'aimez pas le monde », c'est parce qu'il y avait certains qui aimaient, hein, certains de ceux à qui il écrit, qui aimaient le monde ou commençaient à tomber amoureux du monde. Le monde est tellement suffisant, séduisant. Et Jean nous parle de trois dangers maintenant qui peuvent nous détourner de notre amour pour Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors ce sont des mots bien choisis certainement, mais qu'il faut un petit peu expliquer. Alors tout d'abord, il y a la convoitise de la chair. On pourrait dire en français courant, d'ailleurs la version français courant dit « la satisfaction des mauvais désirs de la nature humaine, de la nature pécheresse. » La satisfaction des mauvais désirs de la nature pécheresse. La chair, c'est le désir qui correspond à notre nature pécheresse. De faire ce qu'on veut, quand on veut, si on veut. C'est se chercher soi-même, c'est vivre cramponné à sa propre personne, en agissant pour son seul avantage à soi. Et en ramenant tout, toujours tout à soi, indépendamment de Dieu, indépendamment de ce que désire Dieu, indépendamment des lois de Dieu, indépendamment du dessein de Dieu pour nous et pour les siens. La chair dit toujours, si cela vous semble bon, faites-le. Si nous la laissons faire, eh bien la chair, entre guillemets, va nous tirer par le bout du nez dans ce qui est contre la volonté de Dieu. Les désirs, c'est-à-dire vers les désirs corporels, le manger, le boire, la vie sexuelle déréglée, tout ce qui est déréglé dans tous ces domaines. Avant de devenir chrétien, dit Paul en Éphésiens 2:3, nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos propres pensées. Et il ajoute, mais quand nous sommes devenus chrétiens, nous avons en Christ, crucifier la chair avec ses passions et ses mauvais désirs. Galates 5, 24. Donc la chair ne veut pas rester crucifiée. Elle veut toujours ressusciter. Elle veut toujours dominer notre vie. Par exemple, en Galates 5, 19, il est dit qu'une des œuvres de la chair, c'est la jalousie. Imaginez un instant que vous êtes au boulot. Vous parlez avec un collègue et vous venez de recevoir une augmentation. Pareil que ça existe, on reçoit encore des augmentations. Et vous êtes vraiment content, vraiment content. Mais vous découvrez pendant la conversation avec votre collègue, qui fait entre parenthèses le même travail que vous, vous découvrez qu'il a reçu une plus grande augmentation que vous. Et vous croyez, vous savez, et vous êtes convaincu que vous faites mieux le travail que lui, bien sûr. Et dans ce cas, ben, tout de suite, notre nature pécheresse lève la voix et dit « c'est pas juste ». La chair essaye de dominer notre vie et nos pensées. Et donc la convoitise de la chair est accompagnée et illustrée de deux autres convoitises. La convoitise des yeux. Alors on pourrait, une version en français courant dit, la convoitise des yeux, c'est le désir de posséder tout ce que l'on voit. On pourrait ajouter, et de voir de plus en plus. désir de posséder tout ce que l'on voit. La convoitise des yeux, c'est un désir impur pour ce que l'on n'a pas. La convoitise des yeux, c'est la tentation de courir après ce que l'on voit. C'est la tendance à être séduit par l'apparence extérieure des choses sans s'informer de leur valeur réelle. Quelqu'un a dit, c'est l'amour de la beauté sans l'amour de la bonté. Il y a même une industrie consacrée tout entière à la convoitise des yeux. Ah oui, c'est la publicité. La publicité existe seulement pour vous dire que vous n'avez pas assez et que vous méritez plus. Ah oui. Pour nous, en Europe occidentale, un des plus grands dangers pour la vie chrétienne, ce n'est pas la persécution. C'est la surconsommation. Les choses semblent combler la vie, mais elles font l'opposé. Elles nous détournent de Dieu. Si la chair nous tente de l'intérieur de notre existence, la convoitise des yeux nous agresse et nous tente de l'extérieur. Toutes les choses qui sont autour de nous, qui peuvent attirer notre attention, donc. Et puis, il y a l'orgueil de la vie. Là, c'est un petit peu plus compliqué. L'orgueil de la vie, il faut un petit peu réfléchir. Je crois que la meilleure définition, c'est la confiance présomptueuse en ses ressources, en nos ressources. La confiance présomptueuse en nos ressources. L'orgueil de la vie, c'est une fierté impure de tout ce que l'on est, de tout ce que l'on a. L'orgueil de la vie, c'est... Donc le troisième des dangers qui peuvent nous détourner de Dieu, tout simplement, c'est l'attitude qui dit « je n'ai pas besoin de Dieu parce que je me confie en moi, je me confie en ce que je suis, en ce que je possède ». Littéralement, dans nos Bibles, vous voyez une petite note, c'est marqué littéralement « fanfaronnade ». Ah, c'est pas mal ça. L'orgueil de la vie, c'est la fanfaronnade. On connaît tous des fanfarons. L'orgueil de la vie, c'est une sorte d'arrogance. Une vaine gloire relative aux circonstances extérieures de quelqu'un. La richesse, on fanfaronne avec sa richesse, son rang, son vêtement, ses vêtements, sa bonne santé, ses prouesses physiques, etc. Et c'est le désir de briller ou d'éblouir les autres. Et là, on peut donner un exemple aussi. Ceux qui souffrent de l'orgueil de la vie, c'est ceux qui... ne laisse jamais une occasion passer dans une conversation de trouver le moyen de se faire mousser et en même temps de rabaisser leurs auditeurs. Alors cette attitude, nous la voyons chez beaucoup de personnes, ou même, et même, hélas, souvent et parfois en nous. Mais les chrétiens ne peuvent pas vivre ainsi. C'est caractéristique du monde, et le monde ne peut pas nous satisfaire, dit l'apôtre Jean. Alors, il ne faut pas se tromper. Dieu nous donne de bonnes choses dans la vie. Gloire à Dieu. Des bonnes choses que nous pouvons utiliser, que nous pouvons apprécier à satiété. Il nous donne tout avec abondance, dit Paul en 1 Timothée 6. Dieu n'est pas radin. Mais ce qu'il nous donne reste toujours à lui. Et nous ne sommes que des gérants. Nous gérons les ressources du Maître. Oh, c'est magnifique ça. Nous ne pouvons pas donc nous vanter de ce que nous possédons parce qu'en fin de compte, nos possessions ne nous appartiennent pas, quelles qu'elles soient. Pas de fanfaronnade. Alors l'apôtre Jean, dans ce passage, dit aussi pourquoi il ne faut pas aimer le monde. La parole de Dieu ne nous dit pas seulement « fais pas ci, fais pas ça », elle nous dit pourquoi. Il y a deux raisons. La première, c'est une incompatibilité fondamentale entre le chrétien et le monde. Et la deuxième, c'est que le monde est transitoire. Alors, il y a une incompatibilité fondamentale d'abord. Le monde est attirant. Ses plaisirs sont subtils, on vient de le dire. Le monde promet beaucoup, mais il donne très peu. Très, très, très peu. Et plus il promet, moins il donne. Mais si nous tombons amoureux du monde, notre amour pour Dieu va refroidir illico. Jacques 4 dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié, est opposé à Dieu. Inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être l'ami du monde sera ennemi de Dieu. Jacques, il n'y va pas par quatre moyens, c'est des formules claires. L'amour pour Dieu et l'amour pour le monde sont incompatibles. Mais Jésus a dit la même chose en Jean 15. Hein, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Incompatibilité profonde, hein, au point que le monde déteste tous ceux qui se disent chrétiens, qui vivent la vie chrétienne surtout. Et puis, le monde est transitoire. Hein. Un jour, tout ce que nous voyons ici, autour de nous, aura une fin. Il n'y aura plus le monde de monde comme celui-ci. Les plaisirs de ce monde ne satisfont pas, et de plus, ils ne vont pas durer, ils ne dureront pas éternellement. Le monde va passer. À cause de tout ce que Dieu a mis en mouvement par la venue de Jésus, ce monde a une date limitée. En tant qu'humains, nous sommes très sensibles aux dates limitées dans les grands magasins. Hein, voilà. Il y a « Ah, est-ce que ça n'a pas dépassé la date? Est-ce que je vais le manger avant la date ?» Bon, c'est important, c'est sûr. Hein. Mais c'est encore plus important de penser que ce monde a une date limite. Hein, mais peu en tiennent compte. Hein. Nous ne sommes que ceux et celles qui séjournent dans ce monde parce que notre destinée est le ciel. Est-ce que nous allons nous laisser prendre par un monde qui passe et dans lequel les plaisirs et les choses ne sont que transitoires? Donc Jean nous appelle à regarder plus loin, à voir ce monde à la lumière de l'éternité. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, dit-il. Donc il sera là, celui qui fait la volonté de Dieu, quand le monde passera. Il sera près de Dieu pour toujours. Et Jean nous appelle aussi donc à décider comment nous allons vivre. Et le texte le dit bien, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On s'attendrait à ce que Jean dise « celui qui aime Jésus demeure éternellement ». Parce qu'il a parlé beaucoup d'amour. Non. Tout ce qu'il dit comprend une dimension toujours d'engagement éthique, hein, de comportement. Il faut croire et il faut faire. Il faut croire et il faut faire. Hein. Il est certain que les chrétiens obéissants aiment Dieu. Là, il n'y a aucun doute. Mais obéissant veut dire qu'il se détourne de son péché, premièrement. Deuxièmement, ça veut dire aimer nos frères et nos sœurs, pas seulement en parole. Et troisièmement, ça veut dire rejeter les tentations du monde pour suivre Jésus sur le chemin étroit. Hein. Et c'est parfois difficile, hein, le chemin de la foi. Alors, ceci dit, un tel chrétien donc, a vraiment gagné la richesse de la vie éternelle, même si dans ce monde, il connaît la pauvreté, la difficulté. Comme dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4, 18, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. J'ai encore une petite illustration. Tous ceux qui ont visité des malades au soir de leur vie savent que les malades ne parlent jamais de l'argent qu'ils ont gagné, ni des vacances qu'ils ont prises, mais des personnes qu'ils ont aimées. Voilà ce qui demeure déjà dans cette vie et à plus forte raison dans l'éternité. Et il y a de quoi réfléchir. Alors, comment vivre? Nous attendons à ce que Jean nous donne une liste de ce qu'il faut faire et pas faire. Mais il n'y a pas de liste. Jean ne donne pas un tas de conseils pratiques. Bien sûr, ces conseils existent ailleurs dans la Bible. Dieu ne nous laisse pas sans lumière en ce qui concerne notre façon de vivre. Mais il me semble que Jean veut mettre le doigt premièrement sur notre attitude et ensuite sur nos actions. Alors, concluons. Il y a deux questions simples qu'on peut se poser. Est-ce que j'aime Dieu plus que j'aime le monde? Est-ce que je flirte avec le monde? Est-ce que je lui fais des yeux doux? Oui. Les proclamations d'amour pour Dieu sont parfois des discours creux, à la lumière de ma façon de vivre. Et deuxième question, est-ce que je suis prêt à changer ma façon de vivre pour démontrer mon amour? Est-ce que je suis prêt à abandonner mon amour pour le monde d'une manière pratique? Alors on va dire oui, 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 oui. Un petit oui, parce qu'on a peur que changer va laisser un vide. On a horreur du vide. Hein. On a peur que changer va laisser un vide quelque part. On a peur que changer soit trop difficile, que changer va être trop coûteux. Alors, que faisons-nous ? En tout cas, soyons à son écoute et cherchons à l'aimer au-dessus de toutes les autres choses. Amen.